Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Aujourd'hui, mon invité est maître Jacques Bouissou. Jacques est associé cofondateur du cabinet Allerion. Il intervient en contentieux et notamment en contentieux international. Et vous allez voir, Jacques est un amoureux de la profession, un amoureux de l'exercice de la profession d'avocat, un amoureux du rôle et de la mission d'un avocat. Enfin, vraiment, c'est quelqu'un qui est profondément attaché à la robe, au métier et à sa symbolique. Et je trouve que ça s'entend et c'est agréable. Un grand merci à Maître Arnaud Constant de m'avoir parlé de Jacques. Si vous découvrez le podcast ou si vous l'avez découvert il n'y a pas longtemps et que vous n'avez pas encore pris le temps de laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcasts, si c'est bien la plateforme que vous utilisez, eh bien, je vous invite fortement à le faire puisque ça m'aide beaucoup à être identifié dans les classements. Ça prend seulement quelques minutes et pour moi, c'est très utile. J'en reste là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous dis à la semaine prochaine.
Bonjour Jacques Bouissou.
Bonjour Lila Maréchaux.
Merci d'être mon invité sur Fleur d'Avocat.
Mais je vous en prie, c'est un grand plaisir.
Alors Jacques, racontez-moi comment et pourquoi vous êtes devenu avocat.
Comment et pourquoi ? C'est difficile de répondre à cette question parce que ce sont des ressorts très personnels. Ça passe à la fois par des trajectoires personnelles parce qu'on a un métier qui est profondément ancré dans notre personnalité et bien sûr le fait d'avoir fait des études en droit qui est le préalable nécessaire. Études en droit qui ne destine pas forcément à une profession comme celle d'avocat. Je m'explique.
Comment est-ce que vous avez abordé ces études en droit déjà ?
Alors, j'ai abordé ces études en droit de façon secondaire. En ce sens que je faisais Sciences Po et droit. Et ce qui m'intéressait, c'était plutôt Sciences Po. Et j'ai fait le droit en à côté. Et finalement, c'est le droit que j'ai préféré parce que, au fur et à mesure de mes études, j'ai découvert le droit, le bon côté du droit, qui est celui qui m'a incité à devenir avocat.
C'est quoi le bon côté du droit ?
Quand je dis le bon côté du droit, c'est que le droit, c'est un peu Janus, il a un peu une double face. La règle de droit, par essence, elle a pour objet de figer les choses, de figer un état de la société. Donc le droit, cet aspect-là du droit me paraît très ennuyeux, avec tout le respect que j'ai pour les gens qui choisissent le notariat. C'est vraiment le côté très patrimonial des choses qui, moi, ne m'intéressait pas. En revanche, ce que j'ai découvert au fur et à mesure de mes études, c'est le côté droit protecteur des libertés. Ça, c'est l'autre phase du droit qui, elle, en revanche, est tout à fait passionnante et qui, elle, m'a guidé vers la profession d'avocat très naturellement parce que c'est en découvrant cet aspect-là du droit qui n'était pas pour moi évident lorsque j'ai commencé mes études que je me suis dit, bon sang, ce que je veux, en fait, c'est être avocat. Et c'était pas du tout ce à quoi je me destinais au départ. Au départ, je voulais être journaliste. Et en fait, non, j'ai voulu devenir avocat pour ça, pour ce côté-là du droit. Le côté droit garant des libertés.
C'est incroyable le nombre d'avocats que j'ai sur ce podcast qui voulaient être journalistes initialement. Je trouve ça très intéressant.
Enfin,
non, mais vraiment, franchement, je devrais faire des statistiques. Ça doit être peut-être 1 sur 3 ou 1 sur 4.
Ah oui.
Enfin, c'est vraiment fort, ouais.
Cette découverte, elle rejoint une aspiration personnelle qui, là, est vraiment dans mes racines. Parce que je suis petit-fils de réfugiés politiques espagnols et j'ai grandi dans le sud de la France, en face des Pyrénées, à une époque où l'Espagne était encore dirigée par une dictature. Et quand on regardait les Pyrénées, quand j'étais enfant, on savait, mes frères et sœurs et moi, que de l'autre côté, c'était une autre réalité, qui était une réalité hostile pour nous. On avait vraiment grandi avec une hostilité extrêmement forte envers le régime franquiste qu'avait combattu ma famille. Et donc très très dans mes souvenirs d'enfant que j'ai partagé avec mes frères et sœurs, il y a ce côté combat pour les libertés que nous avons senti et vécu familialement par les engagements de nos grands-parents. Et puis après, adolescent, quand on a vu, après la mort de Franco, l'épanouissement de la démocratie espagnole, on a vraiment été les témoins de ce que la liberté peut apporter à un pays en termes de progrès, en termes de stabilité aussi, parce que l'Espagne, qui a connu une histoire extrêmement violente avec la guerre civile, avec la répression sous la dictature franquiste et ensuite avec la violence terroriste, a montré que l'état de droit, le respect des libertés apportait la paix civile. Et je trouve que c'est un exemple vraiment très intéressant dans l'histoire récente de l'Europe que de voir comment l'Espagne, jeune démocratie, fragile, a installé courageusement l'état de droit alors qu'elle était en proie à la violence politique avec le terrorisme de l'ETA, et malgré cette violence politique a installé un régime de liberté très très fort. Et c'est un exemple auquel j'ai beaucoup songé quand la France a restreint ses libertés face au terrorisme. Je me suis dit, bon sang, mais comment est-ce que nous qui sommes la patrie des droits de l'homme, nous avons à ce point peu confiance dans notre modèle pour restreindre à ce point nos libertés. Et je pensais à l'Espagne de mon enfance et de mon adolescence, qui au contraire sortait d'un régime dictatorial franquiste et s'est installé, a installé l'état de droit, la démocratie, en l'imposant à une structure technocratique qui avait été installée par le franquisme face à une violence terroriste, et malgré ça, courageusement a installé l'état de droit, et finalement, pour le plus grand bonheur des Espagnols.
Et vous dites que vous avez découvert pendant vos études supérieures, dans ce double cursus Sciences Po droit, l'aspect protection des libertés fondamentales, protection des libertés en général. Comment est-ce que vous vous souvenez un petit peu de comment ça a été au détour d'un cours, ça a été au détour d'un... Enfin, est-ce que vous avez un peu un souvenir de comment est-ce que vous avez compris cette bonne facette du droit, ce bon côté du droit, comme vous avez dit?
C'est très progressif et c'est très lié à mon histoire personnelle, dont je me suis un peu libéré maintenant, mais j'ai vraiment dans mon éducation, j'ai ça très très présent. Et dans mes études, il est vrai que j'étais souvent très très attaché à ce regard à travers l'histoire récente de l'Espagne. Et je voyais beaucoup l'enseignement que je recevais à travers ce prisme-là. Et tandis que j'étais étudiant, j'avais en miroir de l'autre côté des Pyrénées, qui n'était plus une frontière, qui était devenue un état de droit, une démocratie. J'avais en regard l'évolution de la société espagnole grâce au droit. Et j'ai eu la chance d'être un des premiers étudiants, la première année que Erasmus a été créé, j'avais partie des premiers étudiants à bénéficier d'Erasmus et à partir à Barcelone à l'époque. Et vraiment de vivre l'épanouissement de la société espagnole dans la démocratie. Et c'est un exemple très, très parlant pour moi.
Et donc, est-ce que en évoluant vers la profession d'avocat, en découvrant ça et en ayant envie d'évoluer vers la profession d'avocat, alors vous avez dit en tout début d'échange que c'était pas forcément évident d'embrasser la profession d'avocat quand on s'engage dans des études de droit. Mais est-ce que pour vous, vous avez envisagé d'autres portes dans le monde juridique que celle d'avocat ?
Ah non, pas du tout.
Pas du tout.
Non, vraiment, là, à partir du moment où j'ai choisi le droit, pour moi, il n'y a pas d'autre métier que celui d'avocat. C'est un métier passionnant, c'est un métier très prenant. Donc, pour accepter les sacrifices qu'il impose, il faut l'aimer profondément, passionnément. Je ne pourrais faire aucun autre métier. Je préfère des tas d'autres métiers totalement différents, mais vraiment totalement différents. Mais dans le monde du droit, c'est vraiment c'est une vocation. C'est plus qu'un métier, c'est une vocation.
Et est-ce que vous avez fait des stages ? Comment se sont passées vos premières expériences professionnelles ?
Oui, j'ai fait des stages qui ont été très enrichissants. J'ai fait un stage comme élève avocat dans un grand cabinet français qui avait un bureau à Bruxelles. Et j'ai eu la chance d'avoir un maître de stage qui était à ce moment-là en pointe d'un combat très important dans le droit communautaire, ce qu'on appelait à l'époque le droit communautaire, et en particulier dans le droit de la concurrence, qui était l'accès aux dossiers pour les avocats dans le cadre des procédures en droit de la concurrence devant la commission. Et ça m'a fait découvrir que ce combat pour les libertés pouvait être mené par des avocats de cabinets d'affaires, de très grands cabinets d'affaires.
C'est ce que j'allais vous
parmi
dire.
Parmi les tout premiers de la place, cet avocat s'est battu et a fait avancer les droits de la défense devant la commission. Et c'était absolument passionnant. Et on suivait la jurisprudence de la Cour sur les progrès des droits de la défense qui sont une création grâce au combat d'avocats. Ce sont des avocats qui ont fait avancer les choses. Et ça, c'est absolument passionnant. Donc ça, ce stage a été véritablement passionnant. C'était chez Gide avec Édouard Didier. Et puis j'ai eu des... Vous avez compris que j'avais un tropisme espagnol très fort. Et j'ai donc fait aussi des stages à Barcelone et à Madrid qui ont été extrêmement, extrêmement enrichissants.
Et donc vous avez fait des stages dans le droit des affaires et vous avez découvert pendant ces stages que dans le droit des affaires aussi il y avait une dimension de protection des libertés, de défense des libertés et de progression de ces libertés. Mais quand vous vous êtes engagé dans cette voie-là, est-ce que vous... Enfin, je suis un petit peu étonnée quelque part que vous ne soyez pas engagée vers des aspects plus de droits des personnes au travers de ce prisme-là que vous aviez. Mais c'est une curiosité. Hein. Comment vous avez bifurqué vers le droit des affaires finalement ?
Parce que j'ai commencé par le droit des affaires. J'ai commencé, mes stages ont été des stages dans le domaine du droit des affaires. J'ajoute que mes racines espagnoles font que je me suis très tôt intéressé pour le droit international et que naturellement l'aspect international allait plutôt vers le droit des affaires.
Qu'est-ce que ça veut dire quand vous êtes jeune comme ça de dire je me suis très tôt intéressé au droit international?
Ça veut dire que par exemple quand j'étais à l'école du barreau qui s'appelait différemment à l'époque, j'ai bénéficié d'une bourse du barreau de Paris sur concours pour être étudiant à l'Académie de droit international. Et donc j'ai eu la chance, le privilège devrais-je dire, parce que c'est vraiment une formation exceptionnelle, d'être auditeur à l'Académie de droit international de La Haye. Donc voilà, ça c'est jeune élève avocat, j'ai bénéficié de ça. Et on est dans le sein du droit international au niveau mondial, avec les meilleurs professeurs chaque année, des plus grandes universités au monde, un auditoire composé d'étudiants qui viennent du monde entier. Donc c'est intellectuellement extrêmement enrichissant parce qu'on se retrouve dans un amphithéâtre avec des étudiants qui viennent d'autres cultures juridiques, qui traduisent dans les discussions qu'on a avec eux d'autres problématiques que celles que peut avoir un jeune étudiant français dans les années 80. Donc c'est vraiment absolument passionnant.
Comment est-ce que vous avez poursuivi cet intérêt quand vous avez commencé à exercer? Où est-ce que vous avez commencé? Quelle matière? Qu'est-ce que vous faisiez?
Quand j'ai commencé, on avait la chance à l'époque de pouvoir choisir son cabinet. C'est un petit peu moins le cas aujourd'hui. Et j'avais choisi un cabinet qui ouvrait un bureau à Madrid parce que ce cabinet ouvrait un bureau à Madrid et qu'il était intéressé par un profil d'avocat bilingue qui puisse aller à ce bureau de Madrid. Et finalement, ce cabinet n'a pas pu, enfin le bureau de Madrid n'a pas fonctionné comme l'espérait ce cabinet. Et j'ai donc choisi de partir à Madrid et je suis parti travailler à Madrid dans un grand cabinet espagnol qui s'appelle Gómez Acebo y Pombo, qui est un cabinet qui s'est énormément développé dans les années 90. Qui est devenu un cabinet aujourd'hui de taille internationale et dans lequel j'ai beaucoup appris sur le développement d'un cabinet. C'est un cabinet qui je pense était assez précurseur parce que dans les années 90 il avait fait le choix de beaucoup investir sur la formation des collaborateurs Et nous avions tous les jeudis soirs ce qu'on appelait una tertulia, qui était une réunion tous les jeudis soirs à 20h. Et le cabinet faisait venir des intervenants pour les collaborateurs qui faisaient une conférence, qui pouvaient être des universitaires américains, des grands avocats étrangers, des journalistes qui s'intéressaient à la vie économique, des hommes politiques, enfin bref, des gens qui venaient parler aux avocats et leur dire pourquoi il était intéressant de se former, quelles étaient les perspectives que l'on pouvait voir au métier d'avocat dans les années 90. Évidemment, c'est très très différent aujourd'hui. Mais, bref, tout ça, c'était extrêmement enrichissant. C'est le premier enseignement que j'ai reçu dans ce cabinet, indépendamment des aspects professionnels dans la vie courante, mais je pense enseignement au sens d'un cabinet. Et l'autre, c'est l'ouverture internationale. C'est un cabinet qui, à ce moment-là, avait fait le choix de se dire l'Espagne adhère à l'Union européenne, l'Espagne s'ouvre au monde, et il faut donc que le cabinet soit ouvert au monde. Et ils ont vraiment, de façon très, très volontaire, choisi une stratégie internationale, et j'ai trouvé ça là aussi très intéressant, et j'ai essayé de le traduire ensuite quand j'ai créé le cabinet à Lérion avec mes associés.
Donc à peine diplômé en France, vous traversez les Pyrénées, vous retournez en Espagne.
Et oui.
Et vous avez pas, enfin, vous vous êtes pas dit, ah, mais le droit espagnol, parce que je suis qualifiée en droit français, qu'est-ce que, quid du droit espagnol? Est-ce que vous aviez eu des doutes à cet égard, ou est-ce que vous aviez confiance dans le fait que vous apprendriez sur le tas le droit local? Est-ce que vous étiez peut-être formée déjà vous-même au droit espagnol? Enfin, quel était.
Alors, j'avais une formation en droit espagnol, mais qui n'est pas une formation très approfondie, qui est celle que j'avais reçue dans mon expérience d'étudiant Erasmus à Barcelone, et puis ce que j'avais approfondi ensuite dans mes stages. Le droit espagnol, c'est un droit très, 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 très voisin du nôtre. C'est le droit civil, le droit continental. Donc, on est vraiment dans les mêmes concepts. Quand je travaille pour des clients espagnols aujourd'hui, même si je suis avocat au barreau de Madrid, je ne les conseille jamais en droit espagnol. J'interviens en droit français. En revanche, ma proximité culturelle avec eux, ma connaissance du barreau espagnol, de la vie juridique espagnole, fait que je suis plus proche des préoccupations d'un client espagnol ou latino-américain.
Et vous avez parlé de ces tertulias que vous faisiez dans ce cabinet.
Oui.
Vous avez un souvenir d'un intervenant qui vous avait marqué ?
Oui, 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 absolument. Tout à fait. J'ai le souvenir d'un universitaire américain qui était de beaucoup d'intervenants, mais celui-ci en particulier, qui nous avait parlé à l'époque de l'avenir du métier d'avocat. C'était un universitaire qui s'intéressait à la profession d'avocat. Et il n'est pas neutre d'ailleurs de relever que c'est un universitaire américain, parce que très tôt aux États-Unis, on a considéré que la profession d'avocat était un acteur plein et entier de l'état de droit aux États-Unis et un acteur plein et entier de la vie économique américaine. Et donc c'était très tôt un sujet d'étude. C'est arrivé très tard en France, c'est très récent en France. Il y a 30 ans, c'est déjà un sujet qui intéressait les universitaires américains. Et donc cet universitaire venait parler à des jeunes avocats espagnols et à un français de l'avenir de la profession et donc de la nécessité de s'ouvrir à une activité internationale, de la nécessité de sortir de la culture de l'avocat à l'ancienne, c'est-à-dire l'avocat notable qui s'abrite derrière une lexicologie complexe, et d'être plus près des préoccupations du client.
Tout ce dont on parle aujourd'hui comme étant l'innovation absolue.
C'est une évidence. C'était déjà une évidence il y a longtemps. Le métier de l'avocat, en grande partie, il consiste à faire passer un message d'un client vers un juge, ou d'un code et d'une loi vers un client, expliquer le droit à un client. Donc si on l'explique en termes complexes, c'est incompréhensible pour le client. Et ce que cherche le client aujourd'hui, c'est pas un jargon juridique un peu à la façon des médecins de Molière, c'est quelque chose de pratique. Il veut qu'on lui donne une solution pratique. Et si on s'exprime avec un vocabulaire juridique incompréhensible, avec dans des consultations qui font 30 pages, ça n'a aucun intérêt pour le client. C'était déjà le cas il y a 30 ans. Ça l'est encore plus aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux, d'Internet et de l'email, où on est incité à une solution immédiate et rapidement compréhensible. Et donc, il y a 30 ans, on disait déjà ça.
Oui. Et donc, ça vous avait marqué?
Ça m'avait marqué, absolument.
Combien de temps est-ce que vous êtes resté en Espagne?
Tout mis bout à bout, j'ai dû faire une expérience de 1 an et demi en Espagne, dans des cabinets espagnols.
Et vous avez dit que vous avez vu et quelque part participé de l'expansion de ce cabinet.
Alors, j'ai pas parti. Ce serait franchement exagéré de dire que j'ai
donc
participé à l'expansion du cabinet. J'ai assisté, c'est-à-dire que j'ai vu comment ce cabinet à ce moment-là. Projeter son développement et ensuite revenu en France, j'ai assisté à son développement. J'ai vu comment ce cabinet s'était imposé comme un des tout premiers cabinets espagnols.
Et donc, ça vous a inspiré pour votre expérience?
Ça m'avait déjà fortement inspiré parce que j'avais trouvé que c'était passionnant. J'avais trouvé cette expérience a pour moi été très très enthousiasmante. Et donc, bien sûr, quand je suis revenu en France, j'ai participé à l'époque au développement d'un cabinet qui venait de se monter. On était en 1995 et qui est devenu aujourd'hui un des tout premiers cabinets français. C'était Auguste et Debouzy. Auguste et Debouzy, quand j'y suis arrivé, c'est au début du cabinet, on était 8 avocats, 2 associés, j'ai Auguste Olivier Debouzy et 6 collaborateurs. Et là aussi, c'est une expérience passionnante, enrichissante. Parce que c'était une grande aventure.
Et pourquoi est-ce que vous êtes resté que 1 an et demi en Espagne?
Parce que c'est une très
je
bonne question.
Questions,
non, c'est une très bonne question parce que j'ai eu cette réflexion. Évidemment, tandis que j'étais à Madrid, que j'étais passionné par ce que je faisais, que j'adorais la vie madrilène. J'adore l'Espagne, j'adore la vie en Espagne. Mais il se trouve que j'étais resté avocat au barreau de Paris et que avant de quitter Paris, j'avais déjà commencé à développer un petit embryon de clientèle personnelle. Et ce qui me séduisait le plus, m'excitait le plus, c'était de développer mon cabinet. Et j'avais continué à travailler cette clientèle personnelle tandis que j'étais collaborateur dans un cabinet madrilène. Et je me suis posé la question entre être un Français à Madrid dans un grand cabinet madrilène pour traiter d'une clientèle française ou revenir à Paris et profiter de mon hispanophonie, mon hispanophilie et ma culture hispanique. Et j'ai choisi la deuxième solution, revenir à Paris, pour une raison très simple, c'est que en Espagne, à Madrid en particulier, mais c'est aussi le cas à Barcelone, il y a énormément de gens qui sont francophones et qui ont une très grande culture française, et que la place d'un avocat français en Espagne, en fait, elle n'apporte pas grand-chose. On n'a pas grand-chose à y faire, parce que dans tous les grands cabinets espagnols, il y a des avocats qui parlent français aussi bien que vous et moi, parce qu'ils ont fait une partie de leurs études en France, parce que ils ont étudié au lycée français, et qu'ayant étudié au lycée français, ils ont une culture française absolument parfaite, parce que aussi c'est le cas des avocats jusqu'à ma génération, ils sont issus de familles qui ont émigré, qui sont ensuite revenus en Espagne. Bref, pour des tas de raisons, il y a des tas de gens, des tas de confrères qui parlent extrêmement bien le français, qui ont une très très bonne culture française. Et franchement, le barreau espagnol n'a pas vraiment besoin d'avocats français. En revanche, j'ai trouvé qu'il était plus intéressant de jouer cette carte-là, si je peux m'exprimer ainsi en termes de carte. Hein.
Exprimons-nous en termes de carte.
À Paris, depuis Paris.
Et
c'est ce que j'ai fait.
Et vous dites que avant même d'aller en Espagne, alors que c'était le tout début de votre carrière, que vous aviez commencé à développer une clientèle personnelle, d'où sont venus ces dossiers? D'où sont venus ces clients alors que vous veniez tout juste de prêter serment?
Ce sont les hasards de la vie. On apprend des tas de choses pour. On vous donne des tas d'exemples, comment développer une clientèle, mais en réalité, très souvent, ce sont des rencontres. Je pense aussi, ça me fait revenir à l'Espagne, je me souviens d'un avocat, un très grand avocat espagnol, à qui le barreau de Madrid avait offert une médaille pour ses 70 ans de barreau. Recevant cette médaille, il avait fait un discours très très amusant et il s'était adressé à tous les jeunes avocats en disant « Mais vous savez, aujourd'hui les jeunes, vous avez tous des tas de diplômes en Espagne et dans des grandes universités étrangères, mais ça ne sert à rien. Ce qui sert pour devenir avocat, c'est d'aller traîner vos guêtres dans des bars. Ce qui sert, c'est l'humain, c'est l'expérience humaine. » Et c'est très vrai parce que être avocat, c'est bien sûr être juriste, mais la dimension humaine de ce métier est essentielle. Et les premiers clients que j'ai eus, ce sont des rencontres, des amis qui m'ont dit « Tiens, tu es devenu avocat, écoute, j'ai ce problème, ou je connais un tel qui a ce problème, est-ce que tu pourrais l'assister ?» Et c'est comme ça que ça s'est passé. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé.
Et donc, vous rentrez d'Espagne avec déjà ces quelques clients et vous vous dites « À moi, l'aventure entrepreneuriale, je veux développer mon activité. » Donc, quand même, vous intégrez Auguste Debouzy ?
Oui, enfin, à l'époque, je n'étais pas fou non plus. J'avais un petit embryon de clientèle personnelle.
Je ne sais pas à quel point.
Et un copain m'a dit « Va voir Auguste Debouzy, ils sont en train de créer leur cabinet. » Tu devrais aller les voir, ça va peut-être les intéresser d'avoir un type qui arrive d'Espagne comme ça, et c'est ce que j'ai fait. Ils m'ont reçu et ils ont été très sympas et voilà, j'ai participé à l'aventure des débuts, qui a été une aventure grisante parce que c'était un cabinet en pleine expansion et qui a connu un développement absolument fulgurant.
Et donc chez eux, vous faisiez du droit des affaires aussi ?
Oui.
Contentieux, conseil. Contentieux, conseil.
Oui.
Vous avez toujours aimé les deux parties ?
J'ai toujours aimé les deux parties, oui et non. J'ai longtemps fait les deux. Et puis, depuis une quinzaine d'années, je me suis spécialisé vers le contentieux. J'ai progressivement abandonné le conseil. Non pas que ce soit inintéressant, c'est très intéressant, mais je m'épanouis davantage dans la pratique du contentieux. Il y a une dimension à la fois stratégique, une dimension défi aussi que je trouve absolument passionnante ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire essentiellement du contentieux international, je trouve ça tout à fait excitant intellectuellement.
Et en tout cas chez Auguste, à cette époque-là, vous faisiez du conseil et du contentieux.
Oui,
combien de temps
absolument.
A duré cette expérience ?
Peu de temps, un an et demi. Un an et demi très enrichissant. J'ai quitté Auguste et Debouzy pour passer le concours de la conférence qui à l'époque était incompatible avec le cabinet parce que c'était un tout petit cabinet où on avait énormément de travail. On travaillait vraiment énormément. Enfin, les nocturnes se suivaient. Je crois que la vie de collaborateur dans les années 90 était très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. On demandait beaucoup plus aux collaborateurs et les collaborateurs étaient aussi prêts à accorder beaucoup plus. C'était pas mieux, hein. C'était pas un modèle mieux qu'aujourd'hui. Les deux se valent, je pense que c'est sans doute mieux aujourd'hui. Mais à l'époque, les collaborateurs accordaient beaucoup plus de temps au cabinet. Et donc c'était incompatible de faire les deux.
J'avais une discussion avec Vincent Bruno qui est chez Auguste Debouzy à ce sujet-là. Quand je l'ai interviewé, c'était il y a un an, juste jour pour jour d'ailleurs. Avant ou après d'avoir parlé de mayonnaise, parce qu'on a surtout parlé de bouffe avec Vincent Bruno, on avait parlé de ça et il disait « Mais c'est vrai que je comprends aussi les collaborateurs actuels parce que les perspectives d'évolution sont quand même pas les mêmes aujourd'hui. Enfin, c'est pas la même rapidité d'évolution dans les cabinets. » Enfin, en tout cas, c'était aussi son analyse sur à quel point est-ce qu'on peut beaucoup se donner. Il disait, moi, dans ma génération, on se donnait beaucoup, mais on savait aussi qu'on pouvait passer associé de cabinet d'affaires assez rapidement, quoi.
Il y a ça. C'est vrai, ça, c'est indéniable. Mais le métier a changé aussi. Le métier a changé, la société a changé. La société française a beaucoup évolué depuis les années 90. On est aujourd'hui beaucoup plus sensible à la qualité de vie, la qualité de l'environnement, le besoin de prendre du temps pour autre chose, pour la vie familiale, pour le sport, pour les loisirs. Le métier d'avocat n'est plus devenu... Quand j'ai commencé, c'était vraiment une fin en soi, c'était un absolu, ça prenait absolument toute la vie, tout le temps. Enfin, quand j'ai commencé ce métier, c'était 100% de mon temps. Je me souviens d'une... celle qui était ma petite amie à l'époque, qui m'a quitté.
J'allais vous poser la question.
Je rentrais tous les soirs beaucoup trop tard. Et elle me disait, mais écoute, tu m'aimes ou tu m'aimes pas? Tu rentres tous les soirs à minuit
Et tu travailles le week-end,
c'est pas normal, c'est pas une vie, donc tu t'ennuies avec moi. Mais c'était pas ça du tout, c'est que le métier était très prenant et que quand on fait ce métier, on le fait à fond. Et le faire à fond à l'époque, ça voulait dire travailler comme ça, travailler le soir, tard, travailler le week-end. Et en plus, j'avais le désir fort de développer ma clientèle personnelle, donc ça prenait du temps aussi.
Et donc un an et demi très intense chez Auguste Bouzy. Et vous partez ?
Oui,
pour
poser ma plaque.
Cette fois, pour poser ma
plaque. Ça me démangeait, et donc je l'ai fait. Je l'ai fait
Parce qu'un an et demi, c'est pas grand-chose. Donc qu'est-ce qui fait que un an et demi plus tard, vous vous sentez prêt ?
L'audace, sans doute. L'aveuglement de la jeunesse. Est-ce que j'étais prêt? Je me sentais prêt à ce moment-là, mais j'étais très jeune. Je me sentais prêt. J'avais beaucoup appris dans les cabinets dans lesquels j'étais passé, et j'avais vraiment envie de le faire. J'avais vraiment, vraiment envie de le faire. Ça me démangeait. J'avais quelques clients et j'avais envie de tenter l'aventure.
Et alors?
Et donc je l'ai fait.
Comment s'appelait cette première plaque?
La première plaque, c'était Jacques Bouisson, tout simplement. C'est-à-dire qu'on était, plusieurs confrères. Nous avons pris des locaux ensemble, mais nous n'avons pas constitué un cabinet ensemble. Donc, nous avions à l'époque constitué une société civile de moyens. Nous étions 8 jeunes confrères, et on a
Vous
pris des locaux ensemble. On a partagé des locaux et ça coïncidait avec le moment où effectivement j'ai eu la chance, le bonheur, le privilège d'être secrétaire de la conférence, de gagner ce concours absolument fantastique. Quand on est secrétaire de la conférence, on ne peut de toute façon pas faire autre chose. J'ai dit tout à l'heure que le métier d'avocat était très prenant quand on est jeune, mais alors la conférence du stage, c'est encore pire parce que on ne s'appartient plus. Et donc ça, c'était heureusement à l'époque, je n'étais pas marié, j'avais pas d'enfant, enfin j'avais pas de vie de famille. Je n'avais pas de cabinet à faire tourner, j'étais tout seul avec mon téléphone, mon ordinateur et mon code civil et mon code pénal. Donc c'était à l'époque, sans doute beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quoique avec aujourd'hui, on peut travailler avec juste un ordinateur je pense que les locaux, par exemple, c'est moins important aujourd'hui que ça ne l'était à l'époque. Donc peut-être que les moyens sont encore moins importants aujourd'hui que dans les années 90. Je ne sais pas.
Alors j'aime bien aux personnes qui ont passé la conférence et surtout qui l'ont eue, j'aime bien demander si elles se souviennent de leur sujet et notamment du premier. Le premier sujet au moment de passer le concours.
Oui, alors je me souviens de tous mes sujets parce que c'est un exercice vraiment, vraiment, vraiment excitant. Qu'on l'ait ou qu'on l'ait pas d'ailleurs. C'est un exercice excitant parce que c'est un exercice qui oblige à sortir de soi. Moi, je suis d'un naturel assez pudique, assez réservé. Et quand on se livre à cet exercice, on s'entend dire des choses que l'on ne dirait pas naturellement. Donc je me souviens très très bien de mes sujets. Je me souviens notamment du sujet sur lequel j'ai été élu, puisqu'on est élu au concours de la conférence. C'était « Faut-il rester vierge ?» Et bon, évidemment, c'est un sujet très amusant qui prête à toutes sortes de choses. On peut dire vraiment absolument tout ce qu'on veut avec ce sujet. Et ce que j'ai fait, mes prédécesseurs ont eu l'indulgence de m'élire sur ce sujet-là. Je me souviens de tas de sujets parce que j'ai adoré passer le concours. C'est vraiment passionnant de passer le concours. C'est passionnant d'écouter des gens passer le concours aussi. Je me souviens de sujets que j'ai donnés, sur lesquels des secrétaires ont été élus ensuite. Et c'est très amusant quand vous êtes secrétaire, que vous donnez un sujet. Déjà, c'est un exercice de trouver un sujet, de fixer un sujet et d'essayer de se dire est-ce que ce sujet va être intéressant à traiter ou pas. Et des avocats absolument remarquables ont passé le concours sur ce sujet. Et ont été élus sur ces sujets.
Il y a un sujet que vous avez
donné. Par exemple, je me souviens, Éric Morin, que vous connaissez, qui est devenu un très grand pénaliste, avait passé le concours de la conférence sur un sujet que j'avais fixé, qui était « Les fleurs du mal poussent-elles dans tous les jardins ?» Et donc, c'est un sujet qui peut donner lieu. Alors, Éric est un garçon très littéraire, avec une grande dimension humaniste, et un grand pénaliste. Et évidemment, il s'est beaucoup amusé avec ce sujet-là.
Et votre premier sujet, vous vous en souvenez? Parce que c'est souvent celui qui appelle.
Alors, le premier,
à la
premier sujet qui a été mon initiation avec la conférence, parce que je ne connaissais pas du tout la conférence. Et un jour, j'étais au palais à une audience et. À cette audience, une jeune femme pétillante, une grande personnalité qui est malheureusement disparue aujourd'hui, qui était Laurence Gracio, qui était une pénaliste brillante, dynamique, engagée, me dit « Dis donc, Bouissou, ça t'intéresserait pas de passer le concours de la conférence ?» Alors je dis « Bah, qu'est-ce que c'est ?»« Bah, écoute, viens, si tu veux, viens passer pour t'entraîner une berrier. » Et je ne savais absolument pas ce que c'était qu'une berrier.
C'est cruel.
Moi, c'était pas cruel, c'était très, très amusant. Et je suis allé passer une berrier, mais vraiment comme un béotien. Et on m'avait dit il faut faire un discours, donc j'ai fait un discours. Et comme j'avais ma formation de Sciences Po, j'ai fait un discours grand 1, grand 2, grand 1, grand 2. Et je me suis fait massacrer, mais vraiment massacrer. C'était cuisant, mais amusant. Et j'avais des bons amis qui étaient dans la salle, qui m'ont dit « Mais Jacques, c'est dû être horrible pour toi. » Mais c'était horrible, c'est vrai, mais en même temps, ça m'a donné vraiment le goût d'y revenir parce que j'ai trouvé que l'exercice était passionnant. Je voyais que ces secrétaires qui avaient mon âge ou quelques années de plus que moi étaient obligés de... Je ne savais pas trop s'ils prenaient plaisir à me critiquer ou si au contraire c'était une souffrance pour eux de se lever pour critiquer un candidat. Et après, quand j'étais à leur place, j'ai découvert que c'était une vraie souffrance parce que vous devez vous lever. Le discours du candidat vient de se terminer. Vous devez vous lever pour trouver tout de suite une critique. Et si la critique n'est pas spirituelle ou n'est pas jugée spirituelle par le public, vous vous faites vous-même massacrer. Enfin bon, c'est un exercice épouvantable, mais c'est un exercice très, très formateur pour apprendre à des jeunes avocats la spontanéité à l'audience et comment réagir du tac au tac. Et c'est très, très utile pour le travail. C'est pas un exercice gratuit pour l'avocat. Je pense que cet exercice, qui est souvent mal compris du public, souvent les gens pensent que c'est un exercice très cruel, je pense que ça apprend la spontanéité à l'audience pour les secrétaires. Pour les candidats, ça relativise l'enjeu et ça apprend l'humilité. Quand on est avocat, on a aussi besoin d'humilité parce que, en fait, ce qui est important, c'est pas nous, c'est le client qu'on défend. Donc, si on s'arrête aux critiques que l'on reçoit quand on passe un discours, bah, ça veut dire qu'on n'est pas vraiment fait pour ce métier. Quand on est avocat, malheureusement, on prend des claques dans sa vie, et notamment au pénal. Et pour ça, la berrier, ça apprend à relativiser.
Et vous avez découvert le pénal à la faveur de la conférence ?
Oui, absolument. J'en avais fait un petit peu. J'en avais fait un petit peu dans mon cabinet et beaucoup par des coms d'offres. Tout le monde pouvait faire des commissions d'office. Tout le monde pouvait faire de l'AGI. C'est plus le cas aujourd'hui parce que le barreau est beaucoup plus nombreux. Et j'avais vraiment envie de poursuivre dans cette voie. Et la conférence a vraiment été une très très bonne école du pénal. D'abord parce que à l'époque on était encadré par des gens de valeur qui étaient d'une immense disponibilité. Il y a des très grands pénalistes. Dans ma promotion, on a eu des très grands pénalistes qui nous ont un peu parrainés. Je pense par exemple à Metzner, qui est disparu lui aussi, qui était un peu un parrain pour les secrétaires et qui était très très disponible, alors qu'il était l'immense pénaliste qu'il était. On pouvait l'appeler pour avoir on avait un doute à l'audience, une question en procédure pénale. Il répondait avec une grande disponibilité. Je pense à une grande dame du barreau pénal qui est Emmanuelle Auzère-Félizon, qui a pris sa retraite maintenant, mais qui était d'une immense disponibilité avec notre promotion, qui nous faisait une formation continue en pénal et en procédure pénale. Et il y a d'autres aussi. Enfin, la conférence, pour ça, c'est une grande famille. Et les secrétaires peuvent appeler leur lignée, peuvent appeler les anciens. Et on apprend beaucoup pendant cette année de conférence. On apprend sur le tas, mais on apprend aussi beaucoup avec tous les anciens qui sont tous des sortes de super maîtres de stage qui apprennent le métier d'avocat pénaliste jour après jour, à la barre, dans la défense des plus démunis, dans l'urgence. Et enfin, j'ai des souvenirs passionnants à la barre.
Et est-ce que vous avez parlé des claques qu'on se prend, et notamment au pénal. Est-ce que vous avez le souvenir d'une claque en particulier ?
Ah bah oui, ça, malheureusement, à la conf, bon, on a des claques, on en prend beaucoup dans une vie d'avocat, mais à la conf où on a des dossiers pénaux lourds, on s'investit beaucoup, on y croit. On soulève des questions de droit majeures et on y croit parce que on a ça. Si on l'a pas en nous, ça sert à rien de faire ce métier. Et puis ça marche pas à tous les coups. Et on voit des clients partir.
Et vous avez un souvenir en particulier ? Un client ou un dossier ?
Oh, j'ai des tas de souvenirs. Franchement, j'ai des tas de souvenirs. Un de ceux pour lesquels j'ai le plus investi intellectuellement était un dossier passionnant dans lequel nous sommes retrouvés à deux secrétaires de la conférence, Guillaume Barbe et moi, et nous succédions au dernier moment à Vergès, à quelques jours du démarrage du procès. C'était des assises, ce qu'on appelle dans le jargon des secrétaires, des assises express, c'est-à-dire qu'on est désigné au dernier moment, et donc on n'a pas le temps de préparer, on n'a pas été là pour toute l'instruction. Et donc on débarque dans ce dossier qui est un dossier de criminalité organisée internationale, vraiment au dernier moment. Et on a un dossier qui fait des mètres et des mètres et des étagères et des étagères et des étagères de dossiers. Et avec Guillaume, on se partage le dossier pendant les 4 jours qui précèdent l'audience. On essaie d'identifier les principales parties du dossier. On va voir le client à Fleury, qui est un client totalement atypique, très impressionnant pour les jeunes avocats que nous étions à l'époque. Et on soulève toutes sortes de questions de procédures pénales, toutes plus légitimes les unes que les autres, et on se prend un énorme râteau. C'est la vie d'avocat, malheureusement. Mais pour 10 râteaux, on a aussi des grandes satisfactions. Et quand on a des grandes satisfactions, c'est profondément gratifiant.
Et donc, on en revient à votre départ de chez Auguste de Bouzy. Vous posez votre plaque, c'est le moment où vous passez la conférence. Et à l'issue de cette année de conférence, vient le moment de vraiment développer votre clientèle, j'imagine. Comment, alors, vous avez dit qu'il y avait beaucoup de hasard, les dossiers qui viennent parce qu'on en parle autour de soi, etc. Mais comment est-ce que votre activité a pris de l'ampleur ? Comment a évolué cette installation et cette aventure entrepreneuriale ?
Beaucoup par des confrères. Essentiellement, d'ailleurs, devrais-je dire, par des confrères qui m'ont dit « Tiens, Jacques, tu t'installes, j'ai ce dossier, j'ai un conflit d'intérêts, je te l'envoie. » Ou « Tiens, Jacques, tu es pénaliste, mon cabinet ne fait pas de pénal, j'ai ce dossier, je te l'envoie. » Et puis, un client satisfait en amène un autre. Et voilà, c'est comme ça que ça se fait, en fait.
Et le cabinet grandit ?
Et le cabinet grandit.
Et la plaque Jacques Bouissou évolue ?
Et la plaque Jacques Bouissou évolue. Et en 2003, je rencontre des confrères. Je retrouve dans un dossier un confrère qui est associé à ce moment-là d'un cabinet d'affaires. Et ce confrère me dit, tiens, on est quatre ou cinq, on a envie de quitter ce cabinet et de monter un cabinet structuré. On aimerait quelqu'un en contentieux pénal et on aimerait bien que ce soit toi. Est-ce que ça t'intéresse ? Je lui dis, bah oui, banco, génial, super, allons-y. Et comme ça est né Alérion en 2003. Et à l'époque, on a choisi ce nom d'Alérion parce que on avait trop souvent été le témoin de ces cabinets structurés français qui se chamaillent pour des égos d'associés parce que c'est le cabinet du Schmoll et associé et du Schmoll considère qu'il est beaucoup plus important que ses associés parce que le cabinet porte son nom. Donc ça c'est vraiment un travers bien français malheureusement de la patrimonialisation du cabinet et c'était pas du tout ce qu'on voulait. Nous on voulait une aventure entrepreneuriale, on voulait créer une entité qui nous dépasse, qui soit au-dessus de nous, au-dessus de la personne des associés et on voulait donc avoir un nom de fantaisie.
Et pourquoi Alérion ?
Pourquoi Alérion ? On a beaucoup réfléchi sur le nom du cabinet et après beaucoup de jus de crâne, on avait choisi au départ un nom qui était Eudoxia, qui était un nom que j'avais déposé quelque temps auparavant avec l'idée de créer un cabinet. Et ça venait de Doxos, la règle en grec. Et heureusement, l'un d'entre nous a eu l'idée de regarder sur Internet et on a vu que c'était les références d'un site porno aux Pays-Bas. Alors on s'est dit, ok, on va abandonner ce nom. À l'époque, en 2003, Internet était moins développé qu'aujourd'hui, mais on avait déjà le réflexe Internet. Et heureusement qu'on a fait cette recherche parce que sinon, ça nous aurait coûté très très cher en développement. Et donc, on a décidé de professionnaliser un petit peu la démarche. Et on a fait appel à deux professionnels qui, avec lesquels on a travaillé et on a fait un exercice très intéressant sur ce que nous voulions faire, qui nous étions, quelles étaient nos valeurs. Et à partir de ça, ils nous ont donné une série de noms et on a fait un travail en entonnoir. Et entre nous, on a requis ou plaidé pour des noms. Et on a voté. Et donc ça a été un long travail entre nous,
qui a pris
une journée entière de séminaire. Et c'est un travail de team building très intéressant parce que ça nous a forcé à travailler sur nos valeurs et à voir ce qui était vraiment important pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous devait plaider pour un nom et requérir pour écarter des noms. Je ne voulais pas tel nom parce que ce nom, vraiment, ça ne veut pas du tout pour telle et telle raison. Je sais plus du tout. J'ai oublié les noms qu'on avait écartés. Et par contre, ce nom est magnifique. Il est généreux. Il est ouvert. Il a de belles consonances, etc. Pourquoi Alérion ? Parce que on voulait un nom qui soit un beau mot, qui soit un mot inconnu et qui permette de créer une marque. Et on voulait un mot aussi qui soit un mot facile à prononcer pour des étrangers. Et Alérion, nous ne savions absolument pas ce que c'était. On a d'abord choisi le mot et ensuite nos deux conseils nous ont dit ce que c'était qu'un alerion. Ils nous ont expliqué qu'un alerion, c'était un mot d'héraldique qui signifiait en langage héraldique un petit aigle sans bec et sans cerf. Les cerfs sont les griffes de l'aigle. Et finalement, on trouvait que c'était assez intéressant aussi parce que un aigle sans bec et sans cerf, il est dépourvu des symboles agressifs de l'aigle que l'on voit dans des symboles nationaux un peu mal connotés. Et au contraire, il garde de l'aigle la hauteur de vue.
Et le regard perçant.
Et le regard perçant, voilà, exactement. Et donc, l'aigle privé de son bec et de ses cerfs, il doit utiliser son cerveau pour mieux défendre ses clients. Et c'est un peu ça qu'est l'avocat.
Ouais. Et vous avez parlé d'un exercice structurant aussi, enfin d'un team building, le fait de vouloir partager qu'est-ce que vous vouliez pour le cabinet, quelles étaient votre valeur, etc. Qu'est-ce qui est ressorti de cette journée ?
D'abord, je pense que ça a renforcé l'aspect entrepreneurial de notre aventure, parce que c'est une chose de se dire dans des soirées pizza froide, Coca-Cola, bière tiède, avec des copains, où on se dit tiens, on va monter un cabinet ensemble, ça va être génial, vous allez voir, on va être les meilleurs de la place, etc. Et on va tous être des grands noms du barreau. Ça, c'est bien gentil de faire cet exercice comme ça, de passer des heures à se dire bon, comment on bâtit nos statuts, comment on rédige nos statuts, qu'est-ce qu'on veut comme locaux, etc. C'en est une autre de vraiment passer, et là, on avait passé une journée entière sur les valeurs et formuler le fait que ce que nous voulons, c'est avant tout une aventure entrepreneuriale et ça passait par le fait de mettre de côté nos égos d'avocats vaniteux, parce que malheureusement la vanité, vous le savez, est un peu un travers de la profession, pour créer ensemble quelque chose qui nous dépasse, qui est l'entreprise Alerion. Ça veut dire que quand on a dit ça, on se dit aussi que dans le développement du cabinet, on va accepter, associés du cabinet qui développons notre entreprise, on va accepter de faire des sacrifices et plutôt que de se payer grassement, eh bien on va investir dans l'outil de production en choisissant des beaux locaux, en investissant dans une bibliothèque. Alors à l'époque c'était indispensable d'avoir une bibliothèque, maintenant ça l'est moins. En investissant dans l'outil informatique et surtout en payant nos collaborateurs, en leur donnant des perspectives d'avenir et en ne considérant pas que les collaborateurs sont des variables d'ajustement d'un cabinet et que ce qui compte, c'est notre rémunération. Donc très tôt, ce qui a caractérisé Alerion, c'est le fait de vouloir s'appuyer sur des collaborateurs en donnant à des collaborateurs des perspectives d'avenir dans le cabinet et en disant aux collaborateurs, l'avenir du cabinet, c'est vous. Et ça, je pense que c'est né dans cette réflexion que nous avons eue ensemble, qui a été renforcée dans les moments que nous avons passés ensemble pour la recherche du nom.
Et c'est intéressant ce que vous dites parce que donc j'ai été mentor pour le lab de l'EFB et je les ai fait travailler sur la qualité de vie au travail et sur les moyens de réduire notamment les risques psychosociaux. Et il y a un groupe qui a proposé, qui a identifié qu'une une des sources de stress, un des facteurs de stress possibles, c'est les conflits de valeurs. Et ce qu'ils ont proposé comme solution pour améliorer cette situation, c'est que les cabinets travaillent sur leurs valeurs. Et qu'un cabinet travaille sur ses valeurs et définisse sa charte des valeurs. Et en plus de définir sa charte des valeurs, définisse qu'est-ce que ça veut dire exactement ce que vous avez déroulé là, et que ce soit un outil auquel on puisse se référer, que ce soit quand il y a un dossier où on n'est pas sûr si on veut vraiment le prendre ou pas, que ce soit quand il y a un conflit entre associés, associés et collaborateurs, qu'on puisse revenir à cette charte et se dire ben, qu'est-ce qu'on a dans notre charte de valeur et qu'est-ce qu'on veut être comme cabinet, qui est-ce qu'on veut être comme, comme avocat de ce cabinet. Et donc, je leur enverrai avec plaisir cette interview, puisqu'ils pourront voir que c'est un travail qui a été fait, été éprouvé. Et je voulais vous demander, est-ce que par la suite, vous vous êtes rappelé ces valeurs? C'est-à-dire, est-ce que par la suite, il y a eu des moments
bien sûr, évidemment,
où vous avez dû vous dire, mais attendez, vous vous souvenez de cette discussion qu'on a eue dans cette pièce? Alors, on y retourne.
Je suis pas certain qu'on ait formulé ça comme ça. On sait pas, je suis pas, on l'a peut-être fait, mais j'en sais rien. Je suis pas certain qu'on soit dit, rappelle-toi, tel jour, dans notre réunion. Mais, nos valeurs, c'est vraiment présent. Vous imaginez bien qu'en près de 20 ans d'existence de cabinet, le cabinet s'est beaucoup développé. Pour se développer, ça passe nécessairement par, disons-le, des conflits. Tout le monde n'est pas toujours, on n'est pas toujours systématiquement d'accord sur tout. Et donc souvent, on en revient aux valeurs. Et dans la vie du cabinet, il y a un certain nombre d'étapes qui font qu'il y a un moment où on sort de l'aventure entrepreneuriale du début. Il y a un moment où on cesse d'être une start-up. On devient un cabinet installé. Pour nous, ça s'est passé vers 2007-2008.
Donc 5 ans après.
Oui.
Il y a eu
où on voyait bien que le cabinet s'était beaucoup développé, on commençait à avoir des beaux clients, des beaux dossiers, on avait recruté une secrétaire générale, on avait une politique de développement des et d'intégration des collaborateurs plus ambitieuse, une politique de développement international plus ambitieuse. Donc il y a eu un 2007-2008, c'était un moment de virage pour le cabinet. Donc virage pour le cabinet, ça veut dire prendre des décisions, ça veut dire introduire plus de méthodologie dans la gestion du cabinet, ça veut dire pour les associés renoncer à une partie de entre guillemets de pouvoir sur la vie du cabinet, déléguer davantage. Donc c'est une démarche intellectuelle qui se fait pas, c'est pas, il y en a pour qui c'est naturel, d'autres pour qui ça l'est moins. Donc il y a beaucoup de, c'est une démarche collective. Et quand on a cette démarche collective, bien sûr, il faut on le fait parce qu'on partage des valeurs. Si on partage pas des valeurs, on n'a pas envie de le faire. On fait un grand bras d'honneur et on dit au revoir et on claque la porte.
Et vous avez parlé de plusieurs étapes comme ça, un peu marquantes du développement du cabinet. Quelles ont été les autres étapes que vous avez en tête comme étant des vrais passages de cap?
La grande étape, je dirais que c'était 2007-2008. Il y a eu une deuxième étape quelques années plus tard. Alors 2007-2008 parce que on a vraiment commencé à structurer la gestion du cabinet et les projets du cabinet. Et après on l'a structuré davantage en ayant un managing partner, en ayant un comité, en introduisant un certain nombre de procédures dans la vie du cabinet. Qui est la façon dont le cabinet fonctionne aujourd'hui depuis longtemps, où aujourd'hui les associés n'ont plus du tout le nez dans la gestion quotidienne du cabinet et font une grande confiance au secrétaire général, au managing partner et au comité de direction qui en retour nous tiennent informés régulièrement. On a tout un système de transparence de l'information qui est très au point, qui est très riche, je pense, pour avoir vu le fonctionnement de beaucoup de cabinets parisiens à travers mes fonctions ordinales. Je sais que c'est pas le cas de beaucoup de cabinets parisiens. Nous, il y a vraiment une grande qualité d'information des associés et même des collaborateurs, qui est un facteur de confiance dans la vie quotidienne du cabinet.
Et est-ce que certains de ces passages de cap ont été douloureux pour vous?
Bien sûr. Un franchissement de cap, c'est l'adolescence. L'adolescence, c'est une crise. Donc forcément, il y a des heurts, il y a des tensions. Tout le monde n'est pas heureux. Et finalement, on est toujours là. Et tous les fondateurs sont toujours là. Et on est toujours heureux de contribuer au développement de ce cabinet. Et quand on a eu des crises, on les a surmontées. Et on les a surmontées justement grâce à ces valeurs que l'on partage. Si à un moment donné, on n'avait plus été d'accord sur ces valeurs, eh bien, l'un ou l'autre serait parti.
Mais là, je pensais à vous personnellement, individuellement. Parce que bien évidemment, qu'en termes d'aventure collective, vous l'aviez dit, ça ne peut pas se faire sans émergence de certains conflits qu'il faut dépasser. Mais vous, personnellement, est-ce que dans cette évolution du cabinet, il y a des choses dans l'évolution de votre propre rôle, du coup, au sein du cabinet qui vous ont coûté ?
Franchement, non, parce que le cabinet, je pense comme beaucoup de mes associés, ce cabinet me ressemble. Et on a donné, chacun d'entre nous, beaucoup de ce que nous sommes professionnellement à ce cabinet.
Qu'est-ce qui vous ressemble ?
Et aujourd'hui, dans ce que je fais, chez Allerion, je ne pourrais peut-être pas le faire ailleurs. Et ce que je fais correspond vraiment à ce que j'ai envie de faire. Ce que j'ai envie de faire, c'est du contentieux international. Donc, je l'ai développé au sein d'Allerion. Je travaille avec une équipe d'avocats qui a une grande ouverture internationale. Je travaille avec des cabinets un petit peu partout dans le monde avec lesquels j'ai pu développer des relations grâce à ce que nous avons fait d'Allerion. Je ne suis pas certain que je pourrais travailler avec ces cabinets qui sont souvent des cabinets très réputés dans les pays dans lesquels ils sont installés si j'avais pas une belle plateforme comme Allerion. Et si j'étais tout seul dans mon coin, peut-être que des grands cabinets étrangers avec lesquels je travaille ne m'enverraient pas de dossier ou ne traiteraient pas les dossiers que je leur envoie. Donc tout ça, c'est une aventure collective. Et donc, bien sûr, je suis très content du résultat qui est celui auquel correspond Allerion aujourd'hui.
Donc
ça, c'est ce que je fais professionnellement dans Allerion. Et puis, il y a quelque chose qui est professionnel, mais qui est un petit peu en marge des dossiers que je traite pour Allerion, mais qui est complètement intégré dans mon activité professionnelle. Ce sont les engagements que j'ai eus. Et ça aussi, Allerion m'a permis de le faire. C'est le Conseil de l'Ordre, c'est ce que j'ai fait en professionnel, mais péri Allerion, c'est-à-dire je pense à deux créations dont je suis très fier et très heureux, qui sont l'Observatoire international des avocats en danger et Paris Place de Droit, qui sont deux organisations qui poursuivent des buts très très différents, mais qui sont des très très belles créations.
Alors parlez-nous
de ça. J'ai pu le faire parce que j'étais dans mon cabinet, et peut-être que si j'avais été associé dans un grand cabinet international, ça aurait été plus compliqué.
Parlez-nous de ces créations.
Alors ces créations, sont deux organisations très 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 différentes, mais que j'ai créées quand j'étais au Conseil de l'Ordre sous le bâtonnat de Pierre-Olivier Sûr. Pierre-Olivier Sûr a dit à ses membres du Conseil de l'Ordre, il les a invités à être audacieux, créateurs et lui faire des propositions. Et j'étais en charge de la commission internationale. Et dans le cadre de cette commission internationale, j'ai créé deux associations qui correspondaient aux principaux engagements du barreau de Paris à l'international. D'un côté, les engagements en termes de liberté publique et donc de défense des avocats en danger dans le monde, qui est un combat pour lequel le barreau de Paris a toujours été connu dans le monde, et le bâtonnier de Paris a toujours eu un rôle particulier dans le monde pour défendre les avocats en danger. On pense souvent à l'exemple du bâtonnier Apaydin à Istanbul en 1982, qui, se sachant menacé et se sachant poursuivi, a dit « appelez le bâtonnier de Paris ». Et le bâtonnier de Paris est évidemment immédiatement venu à la rescousse et l'a défendu. Et c'est une tradition qui remonte à très très longtemps, et que beaucoup de grands bâtonniers parisiens ont porté. Le bâtonnier Danet, le bâtonnier Stasi. Le bâtonnier Stasi est un immense bâtonnier pour la défense des avocats en danger. Et partout où vous allez dans le monde, vous tombez sur un vieil avocat qui vous raconte comment le bâtonnier Stasi est venu le sortir de prison. Et j'ai eu des récits vraiment très très émouvants d'avocats pionniers de l'état de droit dans leur pays, qui ont été sortis de prison par Mario Stasi et qui racontent avec la larme à l'œil l'engagement de Mario Stasi pour eux. Et c'était le cas de beaucoup d'autres bâtonniers par la suite, Charrière Bonnezel, Sûr et d'autres qui ont été vraiment très combatifs pour les avocats en danger. Et Pierre-Olivier Sûr m'ayant envoyé participer à une mission de soutien à des avocats poursuivis à Istanbul, je me suis rendu compte qu'à Istanbul venaient des avocats du monde entier dans un ordre dispersé et donc sans aucune coordination. Et quand je suis rentré, je dis qu'il faudrait qu'on crée une organisation internationale pour fédérer tous les soutiens aux avocats en danger dans le monde, de sorte qu'on soit beaucoup plus efficace, à la fois quand on va sur place parce qu'on est organisé, on porte un message organisé, mais aussi parce que chacun peut faire remonter à cette organisation les informations qu'il a dans son pays et selon les affinités culturelles qu'il a par l'histoire de son pays avec telle ou telle autre juridiction. Et c'est comme ça qu'est né l'Observatoire international des avocats en danger. Au départ avec les barreaux italiens et espagnols et le CNB, et puis après beaucoup d'autres barreaux qui se sont greffés à cette aventure. Ça, c'est l'observatoire. Et puis par ailleurs, dans l'autre pan de rayonnement à l'international du barreau de Paris, qui est le droit civil, que j'ai traduit dans ce qui est mon activité professionnelle en droit des affaires, je me suis dit qu'il était important de pouvoir contribuer au rayonnement de notre place de droit. Et je me souvenais que quand j'étais secrétaire de la conférence, Dominique de la Garandrie, alors bâtonnière de Paris, première femme bâtonnière de Paris, avait lancé une opération autour du droit et de l'économie pour montrer toutes les interactions qu'il y avait entre le droit et l'économie, entre le droit et l'entreprise, et combien il était important de promouvoir le droit dans la vie des affaires et combien aussi le droit représentait un enjeu économique. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup intéressé quand Dominique de la Garandrie avait fait ça en 1999. Et c'est une réflexion que j'avais intégrée personnellement. Et au Conseil de l'Ordre, Dominique Borde et Thomas Baudesson avaient lancé une réflexion similaire avec Franck Gentin, qui alors était le président du tribunal de commerce, qu'ils avaient baptisé Paris Place de Droit. Et nous nous sommes dit, tous ensemble, avec les grandes associations de juristes d'entreprise qui avaient participé à cette réflexion, que sont la FGE et le Cercle Montesquieu, nous sommes dit, il faut davantage organiser les choses. Et donc, en 2015, on a créé une association qu'on a baptisée naturellement Paris Place de Droit, qui avait pour vocation, au départ, de porter le message du rayonnement de Paris comme place de droit à l'international, mais aussi de montrer en France, auprès des décideurs nationaux et régionaux et municipaux, qu'il est important de soutenir le monde du droit, parce que le monde du droit a un rôle à jouer dans la société et parce que le monde du droit a un rôle économique aussi. Et c'est un peu le moment où on commençait à se rendre compte qu'il y avait un marché du droit et que c'est important pour une grande place comme Paris d'avoir un marché du droit actif et attractif, parce que bien sûr ça crée des emplois, mais c'est aussi un facteur d'attractivité, c'est aussi un facteur d'influence dans le monde. Donc c'est ça la vocation de Paris Place de Droit. Et là-dessus, Paris Place de Droit s'est beaucoup intéressé à tous les travaux qui touchait de près ou de loin son objet social. Paris Place de Droit a organisé de nombreuses conférences à l'étranger, en France, au Sénat, à la Chambre de commerce et d'industrie. Lorsque, en 2018, Paris Place de Droit a eu connaissance du rapport de Guy Canivet, qui invitait la France à se doter de juridictions à même d'attirer en France des contentieux commerciaux internationaux. Et Guy Canivet, c'est un grand nom du droit, un des très grands magistrats qui a connu la France dans la période récente. Et il a lancé cette réflexion, qui est une réflexion qui invitait à une sorte de révolution culturelle pour le milieu, on va dire, contentieux français, c'est-à-dire pour la magistrature française, mais au-delà de la magistrature française, c'est tout l'écosystème français qui s'intéresse à la procédure, qui était invité à une sorte de révolution culturelle, qui passait par essentiellement trois points. D'abord, le fait de soumettre des litiges à des juges spécialisés en contentieux des affaires et spécialisés en contentieux des affaires internationales. Le fait d'abandonner la règle sacro-sainte de l'usage du français et de reconnaître que l'anglais est la langue de la vie des affaires, qu'on le veuille ou non. Moi, je suis très attaché à la langue française, qui est une langue magnifique, et je déteste qu'on massacre la langue française, mais quand on fait du contentieux des affaires, la langue des affaires, la lingua franca du monde des affaires dans le monde entier, c'est l'anglais. Donc il faut être réaliste. Un contentieux aujourd'hui, dans la vie des affaires, au niveau international, mais même au niveau national, l'essentiel des pièces, le plus souvent, est en anglais. Les contrats sont en anglais, les échanges de correspondance sont en anglais. Et donc cette règle consistant à imposer la traduction devenait un petit peu absurde. Cette règle consistant à refuser des débats en anglais, des témoins en anglais, quand on a des témoins qui ne s'expriment qu'en anglais, ça fait perdre en sincérité au débat, ça fait perdre en attractivité à notre place de droit. Donc c'est une vraie révolution culturelle. Et puis le troisième point, qui était important aussi, était de changer un peu les méthodes du procès pour se rapprocher davantage des attentes des entreprises. Les entreprises, pardon d'utiliser ce terme qui est un terme mercantiliste et qui peut choquer dans la culture de la justice française, mais les entreprises sont les consommatrices du procès. Et c'est quand même intéressant de savoir quelles sont les attentes des entreprises. Et les entreprises, aujourd'hui, elles veulent un juge efficace, compétent, pas nécessairement bon marché, c'est pas le premier critère, mais qui soit proche de leurs préoccupations et qui comprenne l'affaire qui est soumise au juge. Et très souvent, le juge français négligeait l'instruction orale du procès. Alors que le code de procédure civile lui donnait tous les outils pour le faire, mais c'était pas dans la culture civiliste, c'était pas dans la culture ni du juge français ni du barreau français, alors que c'est dans la culture de l'arbitrage international et que c'est dans la culture évidemment des pénalistes en France. Et ça, Guy Canivet a invité à introduire davantage d'oralité dans la procédure pour avoir une cross-examination à la française. Alors c'est pas du tout la cross-examination, on n'est pas du tout dans les tribunaux anglo-saxons, mais pouvoir entendre les témoins, les parties et les experts à l'audience. Et c'est très intéressant parce que le fait de pouvoir entendre les parties, les témoins et les experts, ça donne un éclairage tout à fait différent à l'analyse des faits, à la perception des enjeux d'un dossier, de toute l'histoire du dossier pour le tribunal, à la présentation d'un rapport d'expertise par un expert. Tout ça, ça donne une perception complètement différente. Et c'était très important de permettre à la justice française de se doter d'instruments pour ce faire, et c'est ce qui s'est passé. La France a créé les chambres commerciales internationales, qui existait déjà depuis 1995 au tribunal de commerce de Paris, puisqu'il y avait une chambre internationale au tribunal de commerce de Paris, qui a été créée à la Cour d'appel de Paris. Ce qui est nouveau devant le tribunal de commerce et devant la Cour d'appel, c'est que des protocoles désormais signés par le tribunal de commerce en première instance et la Cour d'appel en deuxième instance et le barreau de Paris, sous l'égide du garde des Sceaux, garantissent aux parties que on va avoir recours à ces outils procéduraux, qu'on va accorder de la place à la langue anglaise, peut-être un jour à d'autres langues, mais en tout cas aujourd'hui à la langue anglaise, et que l'on garantit aux parties que les juges qui vont être amenés à trancher le litige sont des juges spécialistes de la vie des affaires et spécialistes de questions internationales.
Et ça vous fait quoi que ce dispositif existe aujourd'hui ?
Ça fait que la France qui...
Mais à vous personnellement ?
À moi personnellement ? Moi, je suis très fier de voir que, mon, pays,
que
mon pays, avec les outils qui sont les siens dans le monde, les atouts qui sont les siens dans le monde au niveau juridique et juridictionnel, c'est, au niveau juridique, c'est le fait d'être le berceau du droit civil. Au niveau juridictionnel, c'est le fait d'avoir une culture millénaire qui est une culture d'excellence. Et il y a peu de pays dans le monde qui aient une telle culture. Et le fait d'être une grande place économique fait que nous sommes une grande place économique internationale et que nous avons donc tous les outils et tous les atouts à offrir aux entreprises du monde entier pour soumettre leurs litiges à Paris. Et désormais, on a simplifié les choses, on s'est rapproché des besoins de l'entreprise et on l'a fait intelligemment parce qu'on l'a fait à droit constant. On n'a pas eu besoin d'une loi compliquée. On a simplement relu notre code de procédure civile. On s'est rendu compte qu'on avait tous les outils dans notre code de procédure civile pour le faire. Et aujourd'hui, on est vraiment l'un des tout premiers centres de résolution des litiges en droit des affaires dans le monde.
Et est-ce que vous avez vu...
Un des plus attractifs, un de ceux qui a les... Pardon d'utiliser là aussi une terminologie mercantiliste, mais on a des statistiques qui parlent d'elles-mêmes. En quelques années, on a plusieurs dizaines de dossiers devant la Cour d'appel de Paris, ce qui traduit le dynamisme de cette initiative, alors que d'autres places en Europe ont un ou deux dossiers avec la même ancienneté, ce qui montre bien qu'il y avait un besoin, ce qui montre bien que Paris apporte des solutions que les parties attendaient.
Et j'aimerais revenir, si vous le voulez bien, sur comment est-ce que vous avez progressivement créé cette activité qui vous ressemble tant et comment est-ce que vous vous êtes investi, comment est-ce que vous vous êtes développé progressivement pour arriver à cette activité assez rare de contentieux international, parce que vous êtes parti, je suppose, quand vous avez posé votre plaque et puis ensuite quelques années plus tard quand vous êtes devenu Allerion, je suppose que vous étiez sur des dossiers avec des entreprises peut-être de moins grosse taille, des enjeux moins importants. Comment est-ce que vous vous êtes développé pour aller chercher ? Déjà, est-ce que ça a été, est-ce que vous aviez une volonté, cet objectif de vous dire voilà, moi je veux atteindre tel type de dossier, tel type de clientèle ? Comment est-ce que ça s'est manifesté et comment est-ce que vous êtes allé les chercher ? Pour nos confrères qui nous écoutent,
oui,
pour les avocats qui nous écoutent, qui veulent se développer, pour leur donner un peu une feuille de route.
Comment je suis allé les chercher, c'est en étant moi-même. Voilà. Et en étant soi-même, ça veut dire faire des choses que l'on aime. Faire des choses que l'on aime. Je vous expliquais tout à l'heure mon parcours de jeune avocat. Donc, par exemple, l'Académie de droit international à La Haye. Vous êtes avec des jeunes avocats, des jeunes étudiants en droit qui sont... l'une en Tunisie, l'autre en Israël, un troisième en Espagne, enfin vraiment du monde entier. Et vous créez une communauté, un réseau avec lesquels vous restez en contact. Et au fur et à mesure que ces amis qui deviennent des confrères progressent dans leur activité professionnelle, eh bien, ils rencontrent des dossiers qui peuvent être des dossiers en France. Et ils peuvent vous dire, tiens, au fait, Jacques, tu te souviens de moi, on était ensemble à La Haye. Bon, il y a ça. Il y a, je vous ai fait part de mes expériences en Espagne, eh bien, les cabinets dans lesquels je suis passé en Espagne, ils ont des clients qui ont des problèmes en France. Et ils m'appellent, ils me disent Jacques, qu'est-ce que tu as, comment est-ce? Et puis ils vous parlent d'un dossier, est-ce que tu peux t'en occuper? Bah oui, bien sûr. Et boum, voilà, il y a un dossier qui arrive. Et des clients satisfaits en amènent d'autres. C'est aussi simple que ça. Et quand je dis que j'ai fait des choses qui me plaisaient, comme les aspects internationaux m'ont toujours plu, je me suis aussi beaucoup investi dans l'IBA, International Bar Association, et dans le Litigation Committee. Et là aussi, c'est un forum de rencontres où deux fois par an, on retrouve des confrères du monde entier avec lesquels on travaille sur des questions professionnelles. On met en commun des réflexions sur des problématiques communes. C'est une façon de progresser ensemble et c'est aussi une façon de faire du networking qui fait que quand on rentre à Paris, eh bien, on a un confrère de Genève ou un confrère de Rio de Janeiro qui vous appelle et qui vous dit « Hello Jack !» Et il y a un dossier qui arrive. Voilà.
Attention, prochaine langue, je veux que ce soit, je ne sais pas, du portugais.
Ah non, moi c'est espagnol, anglais. Voilà, ça se limite à
déjà
ça.
Bien. Et donc, ce que je comprends quand même, c'est que vous êtes un homme, alors un homme d'international et un homme de réseau aussi. Vous travaillez beaucoup dans le fait de vous investir dans des réseaux, dans le fait de vous investir dans des associations, des projets qui vous font rencontrer des personnes, qui vous font créer des opportunités. C'est vraiment votre manière très particulière de vous développer, de créer des connexions et de. Enfin, ça fait partie de votre.
Oui, c'est vrai, mais là aussi, je pense que c'est propre à notre métier parce que quelle que soit la pratique. Un avocat n'est jamais seul. Un grand pénaliste, il progresse dans le domaine du pénal parce que au départ, il connaît des clients qui sont en taule, qui parlent de lui, etc. Donc, quelque soit la raison, c'est toujours du bouche-oreille, il y a toujours le. On n'est pas seul dans ce métier, on peut
oui,
pas
mais
être seul.
Vous, c'est pas juste que le bouche à oreille a fonctionné.
Un spécialiste de propriété intellectuelle, c'est pareil, en propriété intellectuelle, on est complètement en réseau, on travaille avec des tas de monde. Il faut. Ce métier, quelle que soit la façon que l'on a de le pratiquer, et il y a autant de façons de pratiquer ce métier qu'il y a d'avocats, c'est une de ses grandes richesses. Quelle que soit la manière de le pratiquer, c'est un métier qui est profondément humain. Et on ne peut pas être un bon avocat si on ne s'intéresse pas à l'humain, c'est pas possible. Et donc s'intéresser à l'humain, c'est s'intéresser à son prochain, à son voisin, à l'avocat qui est en face, à son client, à faire des choses avec d'autres, avec d'autres avocats, d'autres professionnels. Je pense que c'est inhérent à notre métier.
Et est-ce que vous avez cultivé, parce qu'il y a l'international, mais revenons-en quand même à l'Espagne. Donc il y a des dossiers qui vous sont venus de vos relations avec l'Espagne. Est-ce que ça a été le tropisme vers l'Espagne? Est-ce que vous l'avez cultivé de manière plus particulière en vous développant dans votre vie professionnelle?
Je l'ai cultivé parce que, pour toutes les raisons que je vous ai exposées, et je continue de le cultiver parce que. C'est mon identité, que je suis heureux quand je parle espagnol, parce que c'est purement psychologique, c'est que pour moi, quand j'étais enfant, l'espagnol, c'était la langue des vacances, quand j'allais chez mes grands-parents, que je parlais espagnol avec ma grand-mère. Donc pour moi, dès que je parle espagnol, je suis heureux, je suis bien. C'est plus un langage de contrainte, d'apprentissage, parce que quand je parle espagnol, j'étais plus à l'école. Donc je suis heureux quand je parle espagnol. J'adore lire l'espagnol. Donc c'est tout à fait naturel. Mais après, il y a d'autres voies que je travaille à l'international, qui n'ont strictement rien à voir avec l'Espagne. Je travaille beaucoup avec le monde anglo-saxon, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je travaille beaucoup avec des cabinets anglais, des cabinets américains. Donc ça n'a vraiment rien à voir avec l'Espagne. Je travaille beaucoup avec l'Afrique et le Moyen-Orient. Là aussi, ça n'a rien à voir avec l'Espagne. Mais là, c'est la vie qui a fait que j'ai rencontré des confrères, des dossiers, des clients qui m'ont amené à m'intéresser à ces zones du monde avec lesquelles je travaille beaucoup aujourd'hui.
Comment est-ce que vous vous projetez maintenant ? Que votre, enfin, je veux dire, on n'est jamais arrivé,
continuer,
mais comment
est-ce que vous dans ce métier, d'abord, je trouve qu'il n'y a rien de plus triste
que d'être arrivé
dans la vie que de se dire, je suis arrivé. Ça, franchement, je trouve ça horrible parce que, enfin, si on est arrivé, on s'ennuie et puis le simple sentiment d'arriver, il y a un côté bourgeois installé qui est totalement incompatible, je crois, avec ce qu'est un avocat. Donc, un avocat, être avocat, de toute façon, tous les vieux avocats le disent dans ce métier. On apprend jusqu'à son dernier souffle. Et c'est un métier dans lequel on est invité en permanence à se réinventer, à pratiquer différemment. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Moi, j'ai envie de continuer à faire ce que je fais aujourd'hui, à savoir du contentieux international. Ça m'amuse énormément, ça m'excite énormément. C'est des dossiers dans lesquels il y a beaucoup de travail, dans lesquels il y a des questions qui sont des défis intellectuels avec des questions de droit applicable, de conflits de loi, parfois de conflits de juridiction, des dossiers dans lesquels il y a des incidences de pénal, des incidences d'arbitrage. On ne sait plus si on est au tribunal de... C'est vraiment très intéressant. Ce ne sont pas des dossiers dans lesquels on s'ennuie. Donc, j'ai envie de continuer à travailler dans ces dossiers-là parce qu'on se réinvente en permanence. Le défi, parce que je crois qu'il y a un défi, mais c'est un défi qui est pour toute la profession. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut savoir se réinventer.
Et comment est-ce que jamais, vous avez envie de vous réinventer ?
Plus que jamais, le métier, il repose essentiellement sur la valeur ajoutée de notre service d'avocat qui se distingue de ce que des plateformes numériques, des robots vont pouvoir apporter comme service. Donc je crois qu'aujourd'hui, l'avocat, il ne peut pas rendre à son client un service lambda. Le client, aujourd'hui, est de plus en plus... Il va trouver des réponses ou des solutions à des questions simples sur des plateformes ou à travers des robots. Donc, l'avocat, il doit au contraire apporter une plus-value qui est le fruit de son expérience.
Et vous voulez que ce soit
humain.
Quoi votre plus-value ?
Ma plus-value, c'est, je pense que dans le contentieux international, dans la complexité des dossiers, l'avocat reste indispensable et qu'il a une plus-value qui est le fruit de son expérience, qui apporte une réponse originale. Originale, c'est pas l'originalité qui intéresse le client, une réponse utile au client. Et se réinventer, c'est aussi dans le service que l'on apporte au client, où on voit bien qu'il faut, on a de plus en plus recours à des outils d'intelligence artificielle et des robots. L'expérience que nous venons de vivre de confinement et donc de fonctionnement judiciaire en mode dégradé, de fonctionnement des cabinets en télétravail, nous pousse à approfondir cette réflexion et on voit bien que beaucoup de choses ont commencé à changer, vont changer. Est-ce que demain, tous les contentieux seront traités par des juges ou pas ? Est-ce que lorsque les contentieux sont traités par des juges ou des arbitres, d'ailleurs, je dis juges ou arbitres, ils sont intégralement traités par des juges ou des arbitres ? Quelle est la place que l'on laisse à l'intelligence artificielle ? Personnellement, je pense qu'il y a probablement des litiges avec des enjeux moindres qui peuvent être traités par des plateformes de façon efficace et rapide. Des tas de litiges consommateurs pour lesquels des consommateurs n'ont pas les moyens de payer un avocat et pour lesquels les consommateurs devraient attendre longtemps si le litige était soumis à des tribunaux judiciaires. Je pense que des plateformes peuvent proposer des solutions rapides et ça existe déjà. Il y a des tas de contrats qui proposent des recours à des solutions numériques. Mais je pense que ça n'est pas satisfaisant dès qu'il y a un enjeu humain ou financier. On ne peut pas se satisfaire de ça. Et l'humain reste essentiel et incontournable. Il reste essentiel et incontournable. Mais il est évident que le juge, l'arbitre, l'avocat, de plus en plus vont avoir recours à des outils d'intelligence artificielle ou à des outils de gestion de la procédure. Et je pense que là, nous devons être à la fois ouverts, intéressés, mais aussi très vigilants, parce que derrière ces perspectives de développement se cachent des enjeux de liberté publique essentiels sur, bien sûr, les grands principes du procès, les droits de la défense, l'accès au dossier, mais aussi la confidentialité des informations échangées, mais aussi le contradictoire. Que savons-nous et comment savoir lorsqu'un juge ou un arbitre a recours à de l'intelligence artificielle pour sélectionner de la jurisprudence? Quelle garantie avons-nous que cette intelligence artificielle sera objective? On sait bien qu'il n'y a rien de plus subjectif que l'intelligence artificielle qui va dépendre des algorithmes et donc des préjugés de l'ingénieur qui a conçu ces algorithmes. Donc si l'ingénieur était homophobe, raciste, etc., etc., on peut avoir des résultats désastreux. Donc bien sûr, il faut avoir recours à ces outils, mais il faut avoir recours à ces outils avec en encadrant tout cela de beaucoup de garanties. Et pour ça, tout reste à construire. Et je crois que c'est un enjeu pour nous. C'est vraiment un enjeu pour nous tous.
Je voulais vous poser une question parce que on a parlé de votre petite amie qui vous a quitté il y a un moment parce que vous travailliez trop.
Elle m'a quitté il y a très très longtemps. Je l'ai retrouvée depuis, elle est devenue ma femme, donc tout va bien.
Et ben alors voilà, je voulais vous poser la question parce que à un moment vous vous êtes investi avec beaucoup de générosité dans votre vie d'avocat, que ce soit pour développer Allerion, la conférence, ensuite développer votre projet entrepreneurial d'Allerion qui a grandi, tous ces projets dont vous avez parlé et dont vous parlez avec beaucoup de passion. Donc on sent vraiment la place que ça prend dans votre vie de vous investir pour ces combats, que ce soit d'un point de vue liberté publique au pénal, d'un point de vue procès civil et l'international, etc. Quelle place avez-vous réussi à laisser et comment conciliez-vous, c'est une grande question que mes auditeurs me posent, comment réussissez-vous encore à concilier votre vie professionnelle et votre vie personnelle?
Je crois assez bien. Peut-être que ma femme et mes enfants vous donneraient une réponse différente. Bien sûr, c'est pas facile tous les jours. Je rentre tard le soir. Et donc le soir... je suis peu présent dans la vie familiale. En revanche, je m'efforce de ne pas travailler ou de travailler le moins possible le week-end et de le faire depuis chez moi quand j'y suis contraint. Et là, pour cela, je dois dire que nous avons aujourd'hui des outils qui permettent de travailler depuis chez soi, ce qui est assez heureux. Mais je suis très très attaché à la vie familiale. Je prends beaucoup de vacances en famille. Et j'ai un regard très très différent de celui que je pouvais avoir il y a 30 ans quand j'ai commencé ce métier sur les sacrifices qu'on pouvait accepter.
En quoi est-ce que votre regard a changé?
Ben, j'ai une femme formidable, des enfants formidables, et je suis marié avec beaucoup de bonheur et j'attache beaucoup de prix à la vie familiale. Et j'ai donc besoin de ma vie familiale, je travaille beaucoup. Mais je donne beaucoup de place à ma vie familiale aussi, le week-end et pour les vacances. Et j'essaie de prendre le plus de vacances possible en famille pour profiter de cette vie familiale. C'est très gratifiant. Ça donne du sens au sacrifice que nous faisons pour travailler quand on est en famille avec toutes les joies que peut représenter la vie familiale.
Et en parlant de joie, mais c'est pas forcément une joie familiale, mais quelle est votre dernière joie, Jacques?
sur le plan familial, sur le plan professionnel.
La dernière joie, ça peut être... vous la choisissez.
Moi, je suis un tempérament optimiste et donc joyeux. Donc, tous les jours, il y a des joies.
C'est formidable.
Mon fils est venu me voir ce matin parce que un artichaut qui l'arrose amoureusement tous les jours avait produit le premier artichaut. Et vous voyez, j'étais très heureux avec lui quand il est venu m'annoncer que ce plant d'artichaut avait produit un artichaut. Voilà, c'est une voie très simple, c'est une voie quotidienne, c'est une voie familiale.
Et qu'est-ce que vous portez sous votre robe ?
Vous voulez que je vous dise que je suis nous sous la robe ?
Non, je ne veux que vous me disiez rien. Non. Si non, c'est je... ce que vous portez sous votre robe.
Ça importe peu en réalité parce que la grande vertu de la robe, c'est d'effacer les différences. Et en général, je suis plutôt en costume et en chemise, mais peu importe. Et je veux dire que je n'y attache absolument aucune importance quand je porte la robe, quand je la porte pas, quand je suis au cabinet. Au cabinet, bien sûr, on a une chemise, on est un cabinet d'affaires, on a une tenue correcte. Mais quand je porte la robe, c'est plus la même chose. Je porte la robe, point barre. C'est je porte la robe. Ce qui est en dessous, vraiment, n'importe pas. Alors, je suis pas à poil sous la robe. Hein. On voit pas des mollets velus qui dépassent. Mais franchement, quand je porte la robe, ça n'a pas d'importance. C'est la robe qui compte.
Et bien, merci beaucoup, Jacques Bouissou, pour cette interview.
Merci beaucoup à vous pour votre écoute.